ils sont là. Mais quand je dis ils sont là, ils sont vraiment là, physiquement, en chair et en os, dans le studio, ici, là. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour.
Bonjour, chère grenouille.
Mais oui, mon crapaud, je suis content que tu sois ici. Et Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité, notre Wawaron favori. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Alors, allons-y, mon cher.
Mm-hmm.
Un Wawaron sur le pot, ça fait quoi?
C'est vrai qu'on les faisait fumer, les Wawaron, quand on était...
Arrête, dis
ça
pas
finit,
ça.
Ça finissait mal.
C'était pas les Wawaron.
Non.
Ben non, les crapauds. Okay. Pauvre-toi.
Ça finissait mal, me semble-t-il.
Oui, ça finissait toujours
ça
mal.
Finissait mal.
On n'en a pas à s'en vanter. Non. Franchement, on était assez épais.
Oui, c'est
oui,
ça.
On referme cette parenthèse que tu aurais
crapaude.
Oui, c'est
une parenthèse crapaude.
Oui, c'est ça. Donc, écoute, le cannabis, c'est fait, ou presque.
Oui.
On va avoir la date officielle de légalisation cet après-midi, lorsque Justin Trudeau va rencontrer les journalistes pour son bilan de fin de session.
À 16h30.
Vers 16h30. Il se garde la surprise pour lui, mais le projet de loi a été adopté hier au Sénat, après les... amendements acceptés et rejetés par la Chambre des communes. Donc, sanction royale demain, d'après ce que je comprends, demain matin vers 9h30. Ce matin, donc, avant de donner la date de légalisation officielle, qui va être quelque part en septembre, on s'attend à ce que ce soit entre le 1er et le 15 septembre, quelque part là-dedans. Trudeau nous le confirmera, mais on avait ce matin donc un déploiement de ministres qui venaient parler un peu de ce changement qui va être quand même assez important.
C'est un changement pas juste politique, pas juste légal, c'est un changement de culture.
C'est un changement transformateur.
Ah, oui. Ah,
c'est les mots d'ailleurs de Jody Wilson-Raybould qui était là ce matin.
Avant, on cultivait à travers les champs de maïs. Maintenant, on va cultiver. Donc, c'est vraiment un changement
dans
de
nos
culture.
Salons. Ouais, oui, c'est ça. Je savais.
Excusez-moi, quand je suis présent, de vous voir, j'ai envie de m'amuser.
De cabotiner.
Oui, c'est ça.
Ouais,
je mettais Alex, je te jure.
Mais je me rendrai jamais au bout de ce point-là, à ce rythme-là. Je te fais entendre donc la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, en conférence de presse ce matin.
Aujourd'hui, je dois vous dire, je suis fière de voir que notre projet de loi C-45 a passé le Sénat. Nous annoncerons bientôt la date d'entrée en vigueur sur le projet de loi du cannabis. Nous déterminerons cette date en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire pour permettre aux provinces et aux territoires, aux communautés autochtones et aux policiers de se préparer à une transition responsable vers un marché puis un cadre légal.
Ouais.
Et je le disais tout à l'heure, la ministre de la Justice qui était à côté d'elle, Jody Wilson-Raybould, disait que c'était transformateur pour la société canadienne. Et je pense que c'est effectivement vrai. Le Canada devient le premier pays occidental à légaliser la marijuana sur l'ensemble de son territoire. C'est quand même pas rien. Il y a déjà une demi-douzaine d'États américains qui l'ont légalisé, là. Puis des États quand même assez importants, là, le Colorado, l'État de Washington, l'immense État de Californie.
Oui.
On l'oublie, là, mais il y a plus de gens qui vivent en Californie que dans tout le Canada. Donc, c'est quand même immense comme marché légal là-bas. Il y a l'Uruguay. Oui, qu'il l'a légalisé il y a quelques années, mais l'accès est assez difficile. Il faut s'inscrire sur des listes, dans les pharmacies. Bref, c'est pas une légalisation comme celle qu'on va vivre ici. Puis il y a certains pays, comme le Portugal, qui l'ont décriminalisé. Mais ça s'arrête pas mal à ça. Donc, on est vraiment dans un territoire un peu inconnu là, pour un pays...
On est d'avant-garde.
Avancé, là, du G7, là, exactement.
Je ne sais pas si on est d'avant-garde, mais en tout cas, on est les premiers.
On est premiers à faire cette tentative-là. On est, et là, je veux juste le rappeler, il y a quand même, les Canadiens sont parmi les plus grands consommateurs de marijuana au monde.
Hein. Ouais,
quand on fait les sondages, là, on est l'endroit où les jeunes, entre autres, fument le plus, c'est ici, parmi les pays occidentaux. Donc, ça existe déjà, c'est déjà quelque chose qui est la réalité, mais là, on va l'encadrer et le réglementer. Et ça me fait beaucoup penser ce matin, en écoutant les différents points de presse là, des partis, à feu sénateur Pierre-Claude Nolin. Qui avait à l'époque là eu lui et son équipe pas mal de courage lorsqu'il avait lancé ce débat-là en 2002 et lui voulait légaliser là comme ça se produit aujourd'hui là, il voulait légaliser la marijuana.
Il était vraiment avant son temps, comme on dit. Là.
Oui, et c'était un sénateur conservateur, plus. Là, ce qui avait vraiment créé tout un émoi à l'époque. Et lui, il avait dans son document là pas mal les mêmes arguments que le gouvernement Trudeau utilise, là, que la guerre à la drogue du cannabis était un échec, que ça aidait surtout le crime organisé, que les jeunes en fumaient déjà beaucoup et qu'on serait mieux de l'encadrer pour faire de l'insensibilisation plutôt que de laisser ça aller, qu'il y a beaucoup de casiers judiciaires inutiles, que ça engorge les tribunaux. Bref,
mais ça, on aurait pu atteindre, en tout cas, une partie de ces objectifs-là, comme les casiers judiciaires inutiles, en décriminalisant, pas nécessairement en légalisant.
Ça dépend de ton objectif.
On s'entend, hein?
Si ton objectif, c'est effectivement de diminuer le poids sur le système judiciaire, tu peux décriminaliser puis donner des amendes à ceux qui en consomment. Ouais. Si ton objectif, c'est de retirer ce marché-là du crime organisé, ben là, à ce moment-là, il faut que tu ailles jusqu'à la légalisation parce que sinon, c'est encore le crime organisé qui fournit, même si c'est décriminalisé. Donc, ça dépend de l'objectif. On a décidé du côté du gouvernement Trudeau d'y aller jusqu'au bout.
Est-ce que ça va sortir, le crime organisé? Moi, j'en doute.
À court terme, probablement pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont... On l'a déjà vu, d'ailleurs, ils ont commencé à casser les prix sur le marché pour que ça soit moins cher que dans le système légal. Mmh. Mais moi, mon impression, c'est qu'à long terme, sur plusieurs années, ça va certainement diminuer beaucoup leur influence. Un peu comme on l'a vu avec l'alcool dans le temps de la prohibition. Il n'y a plus personne qui achète sa vodka sous le manteau, là, frelaté.
Ça dépend dans quel pays.
Oui, mais ici, on est quand même au Canada. Là. Même chose pour la loterie, là, les jeux.
Les gens font beaucoup de bière ces temps-ci quand même.
Ceux qui font leur vin, c'est à
leur
risque.
À la maison, mais ils n'en vendent pas, c'est ça. Oui, oui, avec de la poudre.
Ceux que je connais qui font du vin, là.
Non, à leur risque et péril, c'est ça que je disais. Ouais.
Ça, c'est,
tu reçois une bouteille de ça, cadeau de Noël, tu dis « Hey! »
C'est la version, la version viticole du sirop Lambert. Hein?
Des fois, c'est pas toujours heureux.
Oh, bah boy.
Les tentatives. Okay. Mais je voulais juste terminer en disant que ça va certainement marquer pas juste le mandat, mais l'héritage de Justin Trudeau. Et moi, j'ai l'impression que depuis deux semaines, là, il y a une grosse partie de son héritage qui s'est mis en place. Là. La nationalisation du pipeline de Trans Mountain, de Kinder Morgan, le bras de fer sur les tarifs avec Donald Trump, la légalisation de la marijuana, tout ça en deux semaines va le suivre jusqu'aux prochaines élections. Il reste dans les gros morceaux, là, l'ALENA, on ne sait pas trop comment ça va atterrir. Mais après ça, ben, il y a pas mal son bilan pour aller en campagne. Ça va être ça qui va avoir marqué les esprits. Peut-être un peu les grandes dépenses en infrastructure, le transport en commun notamment, l'allocation canadienne pour enfants.
Le changement de mode de scrutin.
Qui n'a pas eu lieu. Ouais. L'allocation canadienne pour les enfants, qui est vraiment une révolution importante pour les familles à faible revenu. Là.
En début de mandat.
Mais c'est pas mal, grosso modo, les.
Il y a un site où on recense les promesses électorales, le taux de réussite ou d'atteinte de promesses électorales. Hein. Il faudrait aller voir.
Il y a toujours des promesses qui marquent davantage les esprits.
T'sais, exactement.
Faire une liste, c'est une chose, mais tu en as toujours 4 ou 5 avec lesquels le gouvernement va en réélection. Et ça, je pense que ça va marquer le gouvernement Trudeau. Là, ce que je viens de nommer, là, ça risque pas mal d'être ce qui va être étudié dans son bilan.
Ça a réagi à Québec là-dessus?
Ben, j'imagine.
Vas-y.
Ben oui, parce qu'on a rappelé, et c'est la ministre responsable du POT, Lucie Charlebois, qui a rappelé que ça sera zéro plan au Québec. Il va falloir...
Oui.
Elle rappelle que la loi québécoise, elle est un porte-à-faux finalement avec ce que permet la loi fédérale.
On va avoir fédérale une contravention aussi?
Quatre plans à la maison. Oui, c'est une contravention.
Contravention?
On est dans le domaine du pénal. Le nom du criminel. Ouais. Donc, on aurait une contravention. Est-ce qu'il n'y aura pas d'inspecteurs? C'est pas possible qu'ils se promènent de maison en maison pour vérifier le nombre de plans. J'ai l'impression que c'est un peu comme, les règles d'entreposage des armes à feu. Tu sais, des fois, c'est des contraventions qui s'ajoutent lors d'une perquisition. Ouais. Ah, là, on voit, il n'y avait pas entreposé. Donc, j'ai l'impression que ça va être le même genre de surveillance ou d'application de la loi. Là,
OK, mettons, t'as mis tes plans, là, t'as fait pousser ça à côté de ton cabanon, là, où tu mets ta tondeuse, puis tu mets ton chlore pour ta piscine, OK? tu l'as mis là. Là, le voisin, il voit, ça ressemble à un plan de pot, ça.
Il peut avoir soit de la mauvaise herbe, soit du plan de pot.
Mon voisin, il a le choix. Ou il vient m'en piquer pour en fumer, ou bien il a une dénonce à la police. C'est quoi? Il appelle la police, puis là, c'est quoi la sûreté du Québec où la police municipale va cogner à ma porte, puis va dire, vous avez été dénoncé, vous avez un plan de pot à côté de votre cabanon.
Voilà.
On vous donne une amende?
Ouais.
Ça va être ça?
Ah ben c'est exactement le type de truc qu'il peut y avoir, effectivement, de situation qui peut se produire. Là, écoute, Lucie Charlebois a dit, on lui a posé la question, est-ce que le fédéral va poursuivre le Québec?
Oui, contester la loi,
Elle a dit, bon, on a bon espoir. On espère que le gouvernement Trudeau ira pas là. Et s'il va, on va se défendre. On va défendre les prérogatives, finalement, et les compétences des provinces, parce que le Québec est pas seul. Hein. Il y a le Manitoba aussi, qui interdit la cultivation, comme on dit, à la maison.
Je lisais aussi le Nunavik. J'ai appris ça, moi.
Absolument.
Le Nunavik,
c'est vrai. C'est l'autre
qui est avec le Québec et le Manitoba.
Ouais.
C'est ça. Donc, la ministre a quand même tenu à souligner qu'il va y avoir une révision de la loi dans 3 ans. Donc, il y a comme une ouverture, là, je trouve, de la part du gouvernement. On va voir.
Mais le fédéral aussi.
Un peu comme l'aide médicale à mourir. On a révisé la loi, puis on s'est rendu compte qu'il fallait l'élargir. En attendant, ben, on cherche 300 vendeurs de potes. Hein, la Société québécoise du cannabis, la SQDC, va lancer dans les prochains jours une première vague d'embauche. Puis là, pour l'instant, on a sécurisé l'approvisionnement en cannabis, mais on n'a pas encore déterminé où seront les succursales.
Ouais.
Avant l'adoption du projet de loi, aucun bail encore n'avait été signé. Donc, maintenant qu'elle est adoptée, la loi, maintenant qu'aussi on va avoir la date là, ouais, précise,
bientôt.
On sait que c'est pas le 1er juillet, comme on l'a dit pendant 2 ans, il va falloir déterminer où seront ces 45
succursales
de la SQDC.
Très bien. Oh. Juste avant d'aller à la pause, Alec, tu nous termines ce chapitre pot en nous parlant de cet autre projet de loi qui concerne le pot qui, lui, n'est pas réglé.
Non, c'est l'autre projet de loi, c'est le C-46. Donc, on a toujours un bras de fer entre le Sénat et la Chambre des communes. Ça, c'est le projet de loi qui vise à resserrer les contrôles et les peines en matière de conduite avec des facultés affaiblies par la drogue et l'alcool.
La fameuse tolérance zéro.
C'est ça. Le gouvernement présente souvent les deux comme allant ensemble. C'est de donner davantage d'outils aux policiers pour contrôler sur les routes ceux qui conduisent avec des facultés affaiblies. Puis dans le projet de loi, le gouvernement veut donner le pouvoir aux policiers de procéder à des tests d'haleine de manière aléatoire.
Haleine ou salive?
Haleine, parce que
haleine
pour
ou
l'alcool.
Haleine.
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 Non, c'est parce que ça, c'est Montréal-Québec, ça.
C'est mes origines.
Moi, je dis Haleine.
Oui, c'est ça.
OK.
Pardon, excuse-moi.
Merci, Antoine.
Oui.
C'est très
à l'île du Port, qu'est-ce qu'on dit? Haleine ou Haleine?
On dit l'Haleine.
OK. Moi aussi, je dis ça.
Maintenant qu'on a attiré l'attention des auditeurs sur le mot Haleine, vas-y donc.
Frappe-les. T'es plus proche de lui.
Je pense qu'on l'a pas toujours avec nous en studio.
Hey,
hein.
Je suis en train de me dire, la deuxième partie, il va en faire dehors. Au téléphone. OK, vas-y, continue. Donc.
Alors, c'est pour le volet sur l'alcool, parce qu'on a des tests de dépistage avec l'haleine, qui est en litige actuellement entre le Sénat et la Chambre des communes. Parce que je le disais, la Chambre des communes veut, le gouvernement Trudeau, en fait, veut qu'on puisse procéder à des tests aléatoires. Actuellement, ça prend une bonne raison pour faire souffler dans ballon quelqu'un. Ça te prend une raison, un motif raisonnable.
Oui.
Soit qu'il y avait une conduite erratique, soit qu'en le regardant dans les yeux, tu trouvais que c'était un peu vitreux. Bref, ça te prenait une raison que le policier utilisait pour procéder aux tests. Et là, on veut supprimer ça. On veut que les policiers puissent y aller de manière aléatoire. Et le Sénat n'est pas d'accord. Le Sénat juge que ça contrevient à plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés, les articles 8, 9 et 10B, soit ceux d'être qui protègent donc les citoyens contre les fouilles abusives, contre les arrestations arbitraires et contre le droit à l'assistance d'un avocat dans les meilleurs délais. Mmh. Et donc, ils disent, on va aller trop loin. On doit absolument garder la notion de motif raisonnable et le gouvernement dit non.
On sentait que ça concerne l'alcool, ça. Là.
Ça concerne pour l'instant l'alcool parce que les tests sont rapides.
Oui, mais pour le pot, c'est la salive, si je me rappelle bien.
Ça, c'est plus compliqué un petit peu.
Il n'y a rien sur la salive dans le projet de loi C-46?
On dit juste qu'ils vont pouvoir faire des tests. Donc, ça pourrait s'appliquer éventuellement à la marijuana, mais on le sait actuellement, les tests sont pas aussi rapides. Donc,
et la technologie est pas encore au point.
Pas tout
hein?
à fait au point, ouais, exactement. Donc, pour l'instant, ça s'appliquerait à l'alcool, mais éventuellement, ça pourrait s'appliquer aussi aux drogues. Puis là, le gouvernement dit, pour être dissuasif, ça prend une arme comme celui-là. Ça serait utile, donc, d'avoir... Et on dit qu'on a des avis juridiques. Au ministère de la Justice, on dit que ce serait pas des fouilles abusives ou des arrestations arbitraires. Mmh. On pense qu'on est capable de faire passer ça devant les tribunaux. Mais moi, je pense, un peu comme la culture de potes à la maison, là, les quatre plans, dans les deux cas, ça va se retrouver devant les tribunaux.
Ouais, ouais, ouais,
et probablement jusqu'à la Cour suprême, ça va être tranché par les tribunaux parce qu'il y a une mésentente, dans ce cas-ci, entre le Sénat et la Chambre des communes, mais éventuellement entre les citoyens qui vont se faire arrêter puis qui vont dire « vous n'aviez pas de motif raisonnable ». Puis dans l'autre cas, entre les provinces et le fédéral sur la capacité d'en faire pousser à la maison.
Je lis ça, droit d'être protégé contre les fouilles abusives, contre les arrestations arbitraires et le droit à l'assistance d'un avocat d'un meilleur délai. Ça a été pratique en octobre 70, ça, hein?
Oui. On avait fait une loi qui suspendait tout ça, sur les mesures de guerre.
Oui, je sais bien, mais il n'y avait pas de charte des droits à ce moment-là.
C'est vrai.
Alors, est-ce que la charte des
droits... Il y avait une déclaration des droits, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui a quand même mis ça dans la Charte des droits, là. Puis je vois ça, puis je me dis, il aurait été bien de respecter ces principes-là en octobre 70. Mais ça, c'est un petit éditorial comme ça.
Ben, tu
en
fais
passant,
bien. Moi, j'appuie.
Qui est un petit peu. Oui,
comme on dit sur Facebook, j'aime.
J'aime. Ouais.
Oui, très bien.
Clic, clic.
On va s'arrêter parce qu'au retour, il faut parler un petit peu des grutiers, là. Hein, ça commence à s'impatienter du côté de Québec. Et Antoine, je te pose tout de suite la question, mais je donne-moi pas réponse. Est-ce que tu penses que ça pourrait finir en loi spéciale? Ce qui pourrait le gouvernement... De retour avec Alec et Antoine. Alors Antoine, parlons donc de cette grève illégale des grutiers. On a vu la sortie du premier ministre Couillard hier. Là.
Mm-hmm.
Est-ce que tu sens qu'il commence à...
s'impatienter?
Ah oui, je sens vraiment qu'il commence à s'impatienter, mais on cherche le moyen. On cherche la manière d'intervenir. Hein?
Parce que la loi...
Et là, tu as eu Sonia Lebel en entrevue, donc de la Coalition Avenir Québec, candidate dans Champlain, ancienne procureure de la Commission Charbonneau, qui, elle, dit, ils sont où, le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais.
Et d'ailleurs, le gouvernement se dit, bon, ben, il faudrait faire quelque chose, mais quoi? Une loi spéciale pour condamner une grève illégale, c'est pas logique. C'est déjà illégal. C'est ça qu'on me dit, moi.
Mais à ce
moment-là, donc,
c'est
tu peux pas avoir une loi spéciale.
C'est une question d'injonction.
Là, c'est des injonctions.
Ben oui.
C'est ça. Mais qui doit demander une injonction? Ben. C'est pas des employés du gouvernement, c'est de l'État, hein, les grutiers.
Ben non.
C'est tout le problème avec cette espèce de patente moi, un peu particulière qui est l'industrie de la construction.
Je pense à la commission de la construction.
Ben, ils ont déjà commencé. Donc, 150 accusations pour greffe illégale. Ça peut coûter très cher aux associations syndicales. 79 587 par jour, là. C'est quelque chose.
Elle peut mettre 80 000. Bon.
Ben oui. Mais pour revenir à la loi spéciale, c'est ça. Et quand on m'a dit c'est pas possible une loi spéciale pour empêcher quelque chose qui est déjà illégal, ben j'ai dit les infirmières. Moi, je me souviens très bien des grèves infirmières en 1989, cassées par Robert Bourassa, qui avait dit qui mène au Québec. Je sais pas si on se souvient.
Je pense que c'était juste avant l'élection de 89, non?
Oui, c'est ça.
Ah oui.
Puis en 99, il y en a eu aussi une loi spéciale contre les infirmières.
Ah, Lucien Bouchard.
C'était des grèves illégales. Et là, on m'a dit, ben oui, mais à ce moment-là, il n'y avait rien dans les conventions collectives pour punir une grève illégale. Donc, on s'est trouvé à aller ajouter ça, les pénalités par jour. Puis en plus, là, ce sont des employés de l'État, les infirmières, contrairement aux grutiers. Qui. Alors, au fond, là, le gouvernement ne veut pas le dire, là, mais que les entrepreneurs et les consortiums qui subissent des préjudices actuellement déposent des injonctions. Dans le fond, c'est ça.
Faudrait que ça
est-ce que le gouvernement peut le dire?
Ça. Antoine, ils font pas ça.
Parce qu'ils ont peur de à cause de l'intimidation.
Ben oui.
C'est là qu'on revient à ton entrevue avec Sonia Lebel, puis que j'ai entendu, puis à qui j'ai parlé aussi.
Ouais.
Tu sais, les vieilles affaires, les vieilles méthodes, et même des vieux personnages qui reviennent au devant de la scène.
La famille Dupuis.
Exactement.
Le sympathique Jocelyn Goyette.
Ben oui.
C'est ça, Jocelyn.
Hein? C'est-tu Jocelyn?
C'est Jocelyn Dupuis.
Non. Ouais. Non, c'est Goyette. Voyons, j'ai un blanc de mémoire.
On va le retrouver. On va
revenir tout de suite.
Ben oui.
Sont revenus au devant de la scène. On sent qu'il y a Richard Goyette.
Oui, voilà.
Qui mène ça en sous-main, dans le fond, comme dans le bon vieux
temps. C'est la queue.
Ils ont écrit un livre ensemble, on se souvient. Hein?
C'est la queue qui brasse le chien. Comment se fait qu'un syndicat de grutiers mène le reste du mouvement syndical et en particulier mène le reste de la FTQ? Hey, moi, là, Richard...
Il y a des gens qui m'ont dit, mais où est Daniel Boyer?
Ben justement, j'ai essayé de l'avoir en entrevue. Oh, il est occupé, hein?
Il est très occupé. Où est Daniel Boyer, le président de la FTQ?
Ouais, puis où est le président de la FTQ Construction?
Ouais.
Il est où, lui?
Ils sont parkés en double. Fallait qu'ils mettent de l'argent dans leur parc à mettre.
Il est occupé. Il n'a pas le temps.
Mais pourquoi? Je compte. Mais c'est là qu'on se dit, c'est des réminiscences. Là,
c'est un cancer dont on pensait s'être débarrassé, mais il y avait plus de.
Puis quand on nous dit que c'est un mouvement spontané, je pense que Félix Séguin de TVA puis Hugo Jonca là, du journal ont bien démontré que c'était quand même un petit peu organisé.
Bien. Comment on dit ça, là, les métastases? Il restait des métastases. On pensait avoir éliminé toutes les métastases, mais il en restait quelques-unes.
Je te laisse ta métaphore.
Ben oui, je l'assume
par
complètement. Non, mais là, franchement, là, tu te dis, on a fait tout ça là, pendant des années, les enquêtes.
C'est pour ça qu'il est intéressant de voir ressurgir Sonia Lebel.
Oh oui.
Qui a dit, c'est pas pour rien qu'on a passé tant de temps que ça sur le cas des... Et Sonia Lebel a dit quelque chose, a dit, oui, le gouvernement, mais je te dis qu'au gouvernement, ils n'ont pas aimé ça.
Ben.
Non. Parce qu'ils disent, écoutez, on a publié un communiqué lundi. Dominique Vient a fait des points de presse.
Ça fait peur.
Philippe Couillard lui-même, dans un point de presse, dit que les grutiers devaient revenir au travail. Et eux, ils trouvent que pour l'instant, c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que c'est un conflit privé. Puis que c'est à la CCQ, dans le fond, dans cet univers un peu particulier qui est l'industrie de la construction, à intervenir. Et en plus, tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure que les infirmières, on a mis des pénalités dans la loi, par une loi spéciale quand ils ont fait une grève illégale, ben, dans le cas de l'industrie, dans la loi R20, la CCQ a tout pour intervenir.
C'est ça.
Pour
ce qu'ils disent au gouvernement.
Condamner la loi spéciale.
Au gouvernement, ils disent c'est la CCQ qui gère la loi R20, la loi sur l'industrie de la construction. Ils veulent vraiment pelleter ça dans le cours de Diane Lemieux.
Ah, ben, qui a rugi? La Lyonne a rugi.
Ben, heureusement.
Oui.
Mais là, on a hâte qu'elle dépose ses accusations. Oui. Mais là, on veut qu'elle dépose.
150.
Elle dit qu'il y en a au moins plus que ça. Hein? 150 pour les deux premières journées seulement. 150.
Oh.
Oui. OK. Parlant de rugir.
Oui. Justin, que ça s'en vient vers moi.
Justin a fini par rugir sur la question de la séparation des enfants de leurs parents.
C'est parce que ça n'a tellement pas de bon sens.
Non, mais hier, il ne voulait pas s'en mêler.
Oui, c'est vrai. On était très prudents depuis deux jours au gouvernement Trudeau en se disant là, c'est un problème de politique interne aux États-Unis, on ne veut pas s'en mêler. Puis on sait que les relations de Donald Trump et Justin Trudeau sont assez ordinaires ces temps-ci. Mais là, je pense que c'était juste trop. Donc, à l'entrée du caucus ce matin, Justin Trudeau a dit que c'était inacceptable, la politique américaine, de séparer les familles aux frontières, comme on le fait aux États-Unis, là, où les parents sont mis d'un côté puis les enfants sont de l'autre.
En fait, les parents sont envoyés en prison.
Puis les enfants aussi.
Dans des cages.
Dans des cages. Puis ils ont une petite couverture en aluminium là, pour se tenir chaud. Puis il y a la directive explicite aux gardiens de ne pas consoler les enfants lorsqu'ils pleurent. Juste épouvantable, les images qui sortent des États-Unis. D'ailleurs, c'est en train d'ébranler la Maison-Blanche parce que là, il y a des rumeurs qu'il va peut-être même y mettre fin à cette politique-là.
Ah, il a fait une déclaration, là.
Ça s'en vient, je pense.
Il a fait une déclaration que he will sign something.
Oui, c'est ça.
He will sign
something. C'est parce que ça a plus de bon sens, là. Ça a juste plus de bon sens. Donc, ce que dit Justin Trudeau, c'est que c'était inacceptable. J'ai pas l'extrait sonore, mais je te lis sa citation. Donc, ce qui se passe aux États-Unis est inacceptable. Je ne peux imaginer que ce que ces familles sont en train de vivre. Ce n'est pas comme cela que l'on fait les choses au Canada. Et il a dit en français, et sans qu'on lui demande, il le dit en anglais.
Oui.
Je pense qu'il voulait être certain qu'on comprenne bien sa position.
De toute façon, il parle bilingue.
Il voulait être certain que CNN puisse le reprendre.
Mais des fois, il attend qu'on lui demande. T'sais, il dit quelque chose en français, puis là, il attend en anglais, please.
Oui.
Il dit, et inversement.
C'est vrai qu'il ne parle plus les deux langues en même temps.
Non.
Tu sais, quand il était candidat, à un moment donné,
c'était
épouvantable. Et ça se répand, cette maladie. Oui. Jessica Arnois, là, la future candidate du Parti libéral d'Ambrome-Missisquoi, elle a fait un discours.
Une phrase en anglais, une phrase en français.
C'est une catastrophe. On ne peut pas parler deux langues secondes. C'est catastrophique. Mais
deux langues secondes, ça ne fait pas une langue première.
C'est une maudite parenthèse de crapaud. Je suis désolé, je vous regarde me regarder avec des...
Non, mais
je vous regarde, je regarde vos regards.
Je n'avais rien d'autre à ajouter de toute manière.
Très bien. Il nous reste une minute.
Le plan de décongestion de la CAQ.
Oui, bien, c'est ça. Une minute.
Apprend le grand déblocage du PQ, la décongestion de la CAQ, donc commandité par Salinex. Oh, pardon. Décongestion, blague,
Il est temps que ça finisse.
Je pensais que c'était une nouvelle compagnie qui fabriquait du
béton. Mais non. C'est intéressant quand même. Hein?
Bon,
rallongerait le REM.
Oui.
Il y aurait un tramway qui serait construit entre la pointe de l'île dans l'est de Montréal et le centre-ville.
Oui.
1,8 milliard, toi. On ferait de Notre-Dame-Est un boulevard urbain. Et puis, il y aura un tramway sur la rive sud qui irait de Candiac à Longueuil le long du boulevard Taschereau.
Oui.
Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on impliquerait l'application Netlift.
Oui.
Faut pas se tromper, là, pas Netflix, là. Netlift, qui est une application qui a été faite ici au Québec. Et qui, d'ailleurs, dans un communiqué tout à l'heure, se réjouissait que la coalition Unir Québec veut l'inclure dans son plan de décongestion urbain. On rappelle qu'il y a 2 millions de véhicules qui ont, chaque matin à Montréal, qui ont 4,5 millions de sièges vacants.
C'est ça.
Donc, on pourrait faire du covoiturage et bien organisé par l'application Netlift. Alors,
et ça, si t'embarques quelqu'un, mettons, t'es payé.
Oui, c'est ça.
C'est comme une espèce de Uber du
covoiturage. Mais Uber organisé, c'est pas spontané là. Faut vraiment que tu t'organises sur une base régulière.
Okay.
C'est un peu c'est différent. Faut que tu t'inscrives. J'ai téléchargé l'application l'autre jour parce que j'ai rencontré les gens de la CAQ qui m'ont expliqué ça, là. Et bon, c'est une des nombreuses solutions. Je pense que la CAQ a voulu dire qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur le mode de transport, mais aussi sur toutes sortes de manières, comme accélérer les travaux routiers, le 24 heures sur 24, comme on fait en Chine, par exemple, avec des gros réflecteurs. J'ai vu que l'autre fois, je me suis promené, c'est à 20, puis il y avait des ponts d'étagement qui étaient réparés. Là. C'était tard la nuit, là. Il était à peu près 2 heures du matin. Puis on y travaillait. Donc ça, je trouve ça intéressant.
Mais en Ontario, ils font ça.
Absolument.
L'État de New York, c'est systématique.
C'est ça, exactement. Donc le plan de décongestion, là, Bernard, il coûterait 10 milliards de dollars d'ici 2030.
Juste
donc, on promet
Québec.
Beaucoup à plusieurs personnes, juste pour Québec.
Ouais,
il y aurait de la...
10 milliards de Québec.
Ça prendrait de l'argent de Justin.
Au bout.
Et moi, je parlais hier à quelqu'un de haut placé à la Caisse de dépôt.
Oui.
Qui me rappelait que le REM, c'est un projet de la Caisse de dépôt.
Oui.
Et non pas du gouvernement.
Non.
Ce sont eux qui décident du trajet.
Mais dans la loi... Le gouvernement peut demander à la Caisse d'évaluer
Exactement.
Des scénarios et eux décident si c'est payant ou pas.
Il faut que ça soit rentable.
C'est ça.
Moi, c'est ce qu'on m'a dit hier. Il faut que ça soit rentable. On peut tout étudier, mais il faut que ça soit rentable. C'est notre projet.
C'est un ancien de la CAQ qui étudierait ça, d'ailleurs, Christian Dubé.
Non, non c'est lui qui pose infrastructures. Il est aux investissements dans les entreprises québécoises.
T'as raison.
Le PDG
il peut dire un bon mot.
Caisse de dépôt infra, c'est Mikital qui s'appelle.
Effectivement, que j'ai rencontré, qui est un monsieur sympathique. Mm-hmm. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Merci, mon cher Alec. Et Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Est-ce que tu es là demain aussi ou tu retournes dans tes terres?
Je vais être là en chair et en os, de moins en moins en chair.
Comment ça?
Ben, j'essaie de maigrir tout le temps.
Ah, tu vrai?
C'est une façon de dire.
Fait partie de tes projets?
J'essaie de faire du sport.
On va être encore pogné avec une autre journée.
Qu'est-ce que tu veux? Arrête,
les gens vont penser qu'on s'aime pas.
Ah oui, c'est vrai, tu penses? Non, je vous assure, cher public, qu'ils s'aiment beaucoup. C'est très sympathique et je vous remercie. Et Loïc Tassé s'amène avec l'international et Dieu sait qu'on manque pas de nouvelles.